le journal.
Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Une vidéo de Vincent Lambert dans sa chambre d'hôpital relance la polémique sur le sort de ce tétraplégique. Les images veulent montrer que Vincent n'est pas en fin de vie, ce que conteste la communauté médicale. Dans un instant, les explications de Daniel Messager. La gauche de plus en plus divisée face à l'afflux de migrants. Cécile Duflot dénonce un Waterloo moral du gouvernement. Un sentiment que certains partageraient au sein du Parti Socialiste, nous dira Christine Monclat. Plus de 100 000 migrants sont arrivés sur les côtes européennes depuis le début de l'année. Nous en parlerons avec notre invité, le sociodémographe Patrick Simon. Barack Obama envoie des renforts en Irak, 450 soldats américains supplémentaires pour aider l'armée irakienne à reconquérir le terrain perdu face à l'État islamique. Ce sont des images pour le moins troublantes que des proches de Vincent Lambert ont mises en ligne aujourd'hui. Une vidéo où l'on voit le patient tétraplégique sur son lit d'hôpital. Il cligne des yeux lorsque son demi-frère David lui parle. Il semble même le suivre du regard. Cette vidéo a été réalisée par un homme qui se présente comme un ancien camarade de Vincent. Il appartient à un comité de soutien autoproclamé. À l'évidence, il s'agit de montrer que Vincent Lambert n'est pas un patient à l'article de la mort, alors que vendredi dernier, la Cour européenne des droits de l'homme avait validé l'arrêt des traitements qui le maintiennent en vie. Mais pour la communauté médicale, ces images sont trompeuses. Elles ne disent rien de l'état végétatif de Vincent. Daniel Messager.
Les médecins, il y en a eu de nombreux, les spécialistes du centre le plus réputé d'Europe à Liège, le Coma Science Group, les experts mandatés par le Conseil d'État, tous vont dans le même sens. Vincent Lambert, après avoir été dans un état post-relationnel, est aujourd'hui dans un état neurovégétatif qui s'est donc aggravé, irréversible, et il n'est pas conscient, ce que confirme le docteur Éric Carigère, qui l'a suivi pendant plusieurs années à l'hôpital de Reims.
Le cerveau est capable de capter les informations de l'environnement, globalement toutes nos fonctions sensitives et sensorielles, avec en particulier nos cinq sens. Cette information, bien sûr, les cellules nerveuses périphériques les perçoivent, le cerveau les capte, et ça va créer en réponse des réponses réflexes. Mais par contre, il n'y a pas d'intégration au sens conscience, au sens du « je pense, donc je suis ». Ça ne remet pas en cause ce que les experts ont mis en évidence, à savoir que malheureusement, notre patient est en état végétatif, irréversible, il n'y a aucune conscience possible.
Il s'agit donc bien d'interprétation, de comportement uniquement réflexe et d'une utilisation de l'image de Vincent Lambert qui ne peut évidemment pas s'y opposer. Cinq frères et sœurs et son neveu, choqués, feront paraître demain une tribune. Son épouse Rachel s'est déclarée consternée par la diffusion de cette vidéo.
Daniel Messager, j'ajoute que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a été saisi après la diffusion de ces images sur plusieurs chaînes de télévision. La vidéo était apparue dans un premier temps sur le site de l'hebdomadaire Famille Chrétienne. Il n'y a pas que l'économie qui divise la gauche, il y a aussi la question migratoire. Dans une tribune publiée par Le Monde, la verte Cécile Duflot ne décolère pas après les évacuations musclées des campements de migrants à Paris. L'ancienne ministre dénonce un Waterloo moral du gouvernement, soupçonné, je cite, de céder au vent mauvais de la xénophobie. Officiellement, le Parti Socialiste s'insurge et défend la politique migratoire du gouvernement. Une politique ferme, juste et humaine, pour reprendre les mots du secrétaire d'État Jean-Marie Le Guen. En réalité, Christine Monclat, le trouble exprimé par la gauche radicale et une partie des écologistes, eh bien ce trouble est en train de gagner les rangs du PS.
Oui, même si pour l'instant la plupart d'entre eux refusent encore souvent de commenter, surtout de critiquer les brutalités policières ou la politique de l'immigration, et quand ils le font, ils restent souvent dans le cadre des éléments de langage et aussitôt se mettent à critiquer le parti de gauche, les communistes qui sont accusés d'instrumentaliser les incidents. Feu aussi depuis aujourd'hui sur Cécile Duflot, en effet, dont l'initiative est jugée déplacée et dangereuse car elle amalgamerait la droite et la gauche. C'est ce que jugeait ce matin le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. Entre parenthèses, le parti écologiste de Cécile Duflot, majoritairement sur sa ligne certes, a toutefois abandonné depuis bien longtemps la revendication de régulariser tous les sans-papiers. Mais pour revenir aux socialistes, même si le gouvernement répète sur tous les tons qu'il a agi avec humanité et fermeté, la fébrilité est bien là, en témoigne cette réunion qui s'est tenue ce matin à l'Élysée. Après le Conseil des ministres, François Hollande s'est enfermé avec trois d'entre eux, bien sûr Manuel Valls, ainsi que les ministres de l'Intérieur et de la Santé. Santé, Bernard Cazeneuve et Marisol Touraine, pour évoquer spécifiquement la situation des migrants. Et pour le moment, rien n'a encore filtré de ce conseil restreint improvisé au sommet de l'État.
Christine Moncla, merci. Alors, pour aller plus loin sur les flux migratoires en France, un invité dans ce journal, Patrick Simon, directeur de recherche à l'Institut National des Études Démographiques. Bonsoir.
Bonsoir.
Patrick Simon, plus de 100 000 migrants, 103 000 sont arrivés sur les côtes sud de l'Europe depuis le début de l'année, principalement en Italie et en Grèce. Est-ce que l'on peut parler d'une vague migratoire sans précédent ?
Il y a effectivement des flux d'une ampleur qu'on n'avait pas vue depuis de nombreuses années. Les crises qui se passent au Moyen-Orient et puis dans la Corne de l'Afrique déplacent des masses importantes de population, et puis même d'ailleurs dans l'Europe elle-même, puisqu'il y a aussi des Kosovars, des Albanais qui partent. Et donc ces flux se dirigent vers l'Europe et la réaction européenne n'est pas à la hauteur de ce qui est en train de se produire, c'est évident.
Alors on sait que parmi ces migrants, il y a des gens qui fuient la guerre ou la dictature, comme les Syriens ou les Érythréens, mais il y a aussi des réfugiés économiques. Est-ce que l'on sait dans quelle proportion en fait ?
Alors c'est très compliqué d'avoir des données qui décrivent dans le détail la composition de ces flux. On a des données à travers Frontex, l'agence européenne qui agit aux frontières, mais par ailleurs d'autres passent en dehors de ces contrôles qui sont faits par Frontex, et on peut avoir des opinions ou des idées à travers ceux qui sont dans les campements, par exemple, qui viennent d'être évacués ou qui sont dans des centres d'accueil. Enfin, on n'a pas vraiment une balance entre les différents motifs. D'ailleurs, tout ça se mélange de façon relativement importante et il est difficile souvent de discerner les situations individuelles.
Alors, est-ce que la France est un pays de destination ou un pays de transit pour ces migrants ?
Un peu les deux. On sait que c'est un pays de transit pour tous ceux qui restent au nord à Calais ou même à Paris d'ailleurs, hein, qui attendent de pouvoir trouver l'opportunité d'aller en Angleterre. Parfois aussi l'Allemagne est une des premières destinations. Quand on regarde les 620 000 demandes d'asile qui ont été déposées en 2014, qui est un doublement par rapport à 2012. Donc on a vraiment une augmentation extrêmement importante dans les 5 dernières années. Plus du tiers de ces demandes sont allées en Allemagne, 200 000. Et la France est quand même parmi les 4 pays les plus importants, mais assez loin de l'Allemagne, avec un peu plus de 60 000 demandes. Donc la France est un pays de destination parmi d'autres, et peut-être un peu moins que d'autres, pour une raison qui est que sur ces 60 000 demandes, le taux d'attribution, c'est-à-dire une fois qu'on a fait la demande, l'obtention du statut de réfugié, est un peu moins élevé que dans d'autres pays, autour de 22%, ce qui veut dire que pour les demandeurs d'asile, c'est pas toujours un très bon pari de se diriger vers la France.
Patrick Simon, vous disiez tout à l'heure que la France, l'Europe n'était pas à la hauteur face à cette vague migratoire. Pourquoi ?
Parce que nous réagissons toujours dans la même économie de réflexion qui est d'essayer de réduire, de contrôler pour empêcher les arrivées, et nous créons les conditions dans lesquelles sont placés ceux qui sont dans des campements ou ceux qui se retrouvent à prendre des risques inconsidérés sur la mer ou aux frontières. C'est-à-dire que nous n'avons pas géré en amont un système d'accueil raisonné de ces demandeurs d'asile qui sont nombreux, qui sont prévisibles et sur lesquels l'Europe devrait prendre sa part de façon plus importante.
Tout de même, cette vague migratoire crée des tensions dans les pays européens. Elle provoque une montée des populismes. Est-ce qu'on n'est pas obligé d'en tenir compte ?
Certes, mais les populismes se manifestent alors même que les nombres eux-mêmes ne sont pas si élevés que ça. Rapportés à la population habitant les pays européens, les demandeurs d'asile, les 600 000 dont on parle, forment une portion extrêmement limitée. Donc les populismes s'expriment aussi à l'égard des populations immigrées installées de très longue date dans ces pays. Et il y a un mélange à travers la sensation qu'il va y avoir une invasion qui va arriver. Et cette sensation est d'autant plus forte que les images qui nous viennent avec ces bateaux chargés de migrants dans des conditions terribles donnent l'impression que cette vague est en train de déferler. Mais il faudrait, si jamais nous avions cette politique de gestion et d'encadrement des flux migratoires de demandes d'asile, mais également économiques, si nous réfléchissions dans une autre dimension et que nous voyions comment faire pour donner des conditions d'accueil et de travail pour tous ces et d'hébergement pour tous ces migrants, eh bien, probablement que les situations seraient moins critiques et que l'opinion publique serait moins réactive négativement à l'égard de ces migrants.
L'un des arguments des populistes, c'est notamment de dire que l'immigration coûte cher. Quel est votre sentiment sur cet argument ?
Alors, il y a un budget, effectivement, qui est mobilisé pour accueillir les migrants. Il y a plusieurs questions derrière ce coût de l'immigration. Il y a le coût immédiat pour ceux qui sont dans l'attente d'avoir une décision sur leur demande d'asile. Il y a des centres d'hébergement, et ces centres d'hébergement, bien sûr, coûtent de l'argent. Il y a également l'accès à l'aide médicale d'État, en France en tout cas, qui a un coût également. Mais ce qu'on oublie très vite, c'est que, par ailleurs, après, les personnes qui sont présentes et qui gagnent un statut peuvent travailler, et quand elles travaillent, elles produisent également de la richesse. Et l'immigration, de ce point de vue-là, toutes les estimations qu'on a pu faire sur le coût versus le bénéfice de l'immigration montrent que les soldes sociaux et économiques sont plutôt à l'équilibre. Il y a, selon les années, peut-être un petit déficit ou un petit gain, ce qui est en tout cas très loin de l'idée que l'immigration est un fardeau économique. C'est au contraire, dans beaucoup de situations, une source de dynamisme pour l'économie et pour la société.
Patrick Simon, directeur de recherche à l'Institut national des études démographiques, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Barack Obama est-il en train de changer de stratégie face à l'État islamique ? En public, le président américain continue à défendre l'efficacité des raids aériens de la coalition, mais les récents succès militaires des djihadistes ont peut-être changé la donne. Barack Obama annonce aujourd'hui l'envoi de 450 hommes supplémentaires en Irak. Il s'agit d'aider l'armée irakienne qui vient de perdre la ville de Ramadi dans la province d'Al-Anbar. On retrouve à Washington notre correspondant Frédéric Carbone.
Officiellement, il s'agit d'un ajustement et pas d'un changement de stratégie. Ces 450 soldats supplémentaires n'iront pas en Irak pour combattre, ils seront installés dans la province d'Anbar et chargés de la formation des soldats locaux pour reprendre la ville de Ramadi. Il s'agit de la réponse au constat cruel fait par le ministre américain de la Défense. Les troupes irakiennes étaient plus nombreuses que les djihadistes, explique Ashton Carter, mais elles n'avaient pas la volonté de se battre. L'objectif, c'est de grossir le contingent anti-État islamique. Pour cela, il faut aussi convaincre les tribus sunnites de se lancer dans la bataille, c'est même la clé politique et militaire dans cette région aux portes de Bagdad. Pas de revirement donc, mais Ramadi, considéré comme non stratégique il y a encore quelques semaines, devient la priorité, et puis il ne s'agit plus de gagner du terrain, mais bien d'arrêter d'en perdre. La reprise de Mossoul, la deuxième ville du pays, n'est plus d'actualité. Le groupe État islamique contrôle désormais un tiers du territoire irakien, et des républicains critiquent déjà les demi-mesures de Barack Obama. Il faudrait, selon 10 000 hommes en Irak pour être efficace.
Frédéric Carbone à Washington. La politique arabe des États-Unis, on le sait, reste largement influencée par des considérations énergétiques. Pas question de se mettre à dos les pays producteurs. Eh bien, la situation est peut-être en train d'évoluer avec le pétrole de schiste, une ressource nouvelle qui permet aux États-Unis de devenir cette année le premier pays producteur d'or noir devant l'Arabie Saoudite et la Russie. C'est en tout cas ce qu'affirme le géant pétrolier BP dans sa dernière revue statistique sur l'énergie mondiale. Il faut malgré tout rester prudent, car le pétrole de schiste américain pourrait bien n'être qu'une ressource éphémère. Écoutez à ce sujet l'analyse de Mathieu Ozano, spécialiste des questions pétrolières.
La résurgence de la production américaine est due au développement des pétroles de schiste, qui sont le fruit d'améliorations techniques qui permettent d'exploiter des roches mères qu'on pensait inexploitables il y a encore quelques années. Cette résurgence est tout à fait spectaculaire, extrêmement rapide, et en même temps, on n'a pas du tout de certitude quant à la pérennité de ce retour à l'avant-scène de la puissance pétrolière américaine. Aujourd'hui, les analystes de l'administration Obama estiment que ce boom des pétroles de schiste pourrait s'arrêter avant la fin de la décennie, faute de réserves suffisantes exploitables. Donc il faut être prudent avant de crier au miracle. Les États-Unis continuent à importer à peu près la moitié du pétrole qu'ils consomment. Donc on est encore loin, loin de l'indépendance énergétique. Il n'est pas du tout certain qu'il y ait un bouleversement radical sur ces équilibres géostratégiques. Le seul bouleversement, et il est effectivement massif, c'est que après plusieurs années de niveau de prix du baril historiquement élevé, les pétroles de schiste ont amené une abondance qui a entraîné un effondrement des cours du baril. Et ça, ça a tout un tas de conséquences. Si aujourd'hui en France, on a un freinissement de la croissance, c'est pour beaucoup à cause de l'effondrement du cours du baril. Et cet effondrement du cours du baril, c'est la conséquence du boom des pétroles de schiste aux États-Unis.
Mathieu Ozano, auteur du livre Or Noir, la grande histoire du pétrole, il répondait à Claude Guibal, un mot de la météo. Demain, soleil et chaleur à l'est, orage à l'ouest. Les températures maximales seront élevées de 23 à 26 degrés sous les nuages, 27 à 32 degrés sur le reste du pays. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.